création de la SPL Metz Métropole Moselle Congrès, Monsieur Jean.
Merci, Monsieur le maire. Bien, ça a été maintes fois débattu et expliqué. Là, nous entrons dans la phase opérationnelle, puisque la délibération qui vous est soumise a pour objet d'autoriser le maire de Metz à signer les statuts de la société publique locale que nous allons constituer avec l'agglomération de Metz Métropole et le Conseil général de la Moselle. La répartition du capital est la suivante, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous la donner. 48% pour la ville de Metz, 31% pour Metz Métropole et 21% pour le département de la Moselle. L'objet social, je vous en épargne la lecture, mais en tout cas, en résumé, l'objet social, vous l'avez évidemment dans la motion, c'est de construire ce palais des congrès et d'en être bien sûr le propriétaire, sachant qu'il a été décidé par ailleurs, en l'occurrence à Metz Métropole, que la gestion serait déléguée et ne serait pas assurée en régie directe. Bon, vous avez, alors sur, je peux vous rappeler aussi quelques éléments sur le centre lui-même, il y a des diapos qui défilent. Donc nous avons dimensionné ce centre des congrès dans une capacité qui est une capacité haute dans les équipements que je qualifierais de province, puisqu'on prévoit une capacité de 1200 places. Ça aussi, ça a été dit à maintes reprises. Et vous savez où il se situera, hein, vous avez là la localisation, il sera adossé aux voies ferrées et fera face au centre Pompidou et à la Halle, au parvis des droits de l'homme, donnera sur la rue aux arènes et sera directement accessible par les deux sorties arrière, enfin arrière pour nous, peut-être qu'un jour ce sera plus l'arrière, donc arrière pour les vieux. Les deux sorties arrière de la gare. En termes de montage financier, mais il vous avait été également présenté la dernière fois, l'estimation que nous donne notre programmiste est une estimation à 62,5 millions. Cette estimation, nous l'actualisons compte tenu du fait que la livraison de l'équipement est prévue en 2017, et nous l'actualisons à 70 millions d'euros. En face de ces 70 millions d'euros qui sont le coût de l'opération, vous avez une contribution, enfin des contributions qui ont été annoncées par la ville de Metz à hauteur de 30 millions d'euros, Metz Métropole, ça c'est pas une annonce, ça a été voté 10 millions d'euros, le Conseil général a également voté le mois dernier 10 millions d'euros. Il y a 5 millions d'euros inscrits dans le cadre du contrat de reconversion de site de défense, le CRSD, et il y a une contribution d'ores et déjà versée à Metz Métropole de 2,5 millions. Tout ça fait 57,5 millions, et la différence entre 57,5 millions et 70 millions sera couverte par la capitalisation de ce que verse l'agglo aujourd'hui, de ce que versait l'agglo depuis plusieurs années à son équipement de congrès, en l'occurrence 150 000 euros, et par la redevance du délégataire qui se montera dans une hypothèse basse à 550 000 euros. Alors, 70 millions d'euros, c'est évidemment une estimation, ça peut être moins, on va faire en sorte que ce ne soit pas trop plus, mais de toute façon, la capacité de l'emprunt dégagée par les 700 000 euros qui seront apporté annuellement par l'agglo varie selon la durée de l'emprunt, elle varie entre 18 et 25 millions d'euros. Donc on a là aujourd'hui une ressource potentielle de 57,5 plus 25, donc on est largement au-dessus de notre estimation, que je juge personnellement pessimiste. Et donc, voilà ce qui vous est soumis aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout de verser 30 millions. Hein, il s'agit de constituer le capital de départ de la SPL. Je ne l'ai pas précisé, mais nous démarrons cette société avec un capital de départ de 37 000 euros, ce qui est le minimum légal. Et la contribution de la ville de Metz, dont il s'agit aujourd'hui, c'est 48% de 37 000 euros. Voilà. La motion est en conséquence et je suis disposé à vous répondre à vos questions, sachant que je crois qu'on mange après, donc plus vous serez bref, plus on mangera tôt.
C'est moi qui déciderai si on mange. Alors, on pourrait très bien jeûner toute la soirée. Monsieur Maréchal, je note. Madame Zimmermann,
Colin Osterlé,
Madame Colin
est-il
Osterlé, Monsieur Lebeau,
le Cadir et moi.
Til,
le Cadir et moi.
Les Cadirs
et moi.
Et Liogé. Liogé. Alors, Monsieur Maréchal.
Merci,
Monsieur Til. J'ai noté.
Vous êtes noté.
C'est noté, Monsieur Til, vous êtes noté.
Oui, monsieur, merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Peut-être en boutade, je vais faire plaisir à tous les libéraux installés dans cette salle et je vais leur faire, pour une fois, je vais faire une proposition de réduction de dépenses publiques. La réalisation d'un grand projet de construction est toujours un élément qui produit des effets dans l'opinion publique, effets qui sont produits dans un climat déterminé. C'est le premier point de mon intervention. La politique d'austérité aggrave les difficultés de la population. Une partie importante de cette population voit ses conditions de vie se dégrader. Et ces difficultés vécues provoquent y compris des attentes, parfois des contradictions fortes, des attentes contradictoires, pardon, vis-à-vis des pouvoirs publics. Et la crise politique que nous traversons interroge fortement la légitimité et le bien fondé des décisions publiques. De mon point de vue, la population a le droit de revendiquer que toute décision politique prise doit être utile à la résolution des difficultés de la population ou du pays. Une majorité de gauche, de mon point de vue, toujours encore, doit en premier lieu se soucier des préoccupations sociales exprimées par la population et chercher à y répondre. Toute dépense publique doit prioritairement, dans un contexte d'aujourd'hui, répondre à cette ambition. Les grands projets sont utiles s'ils font la démonstration de leur pertinence et de leur intérêt. Cette utilité ne peut pas s'imposer comme une vérité révélée. Elle est nécessairement issue d'un débat public contradictoire. Et notre majorité, notre municipalité, prendrait un peu de hauteur en décidant de lancer un véritable débat public pour, avant de décider de lancement d'un projet quand même qui est estimé à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Et, monsieur le maire, il n'est pas trop tard pour lancer ce véritable débat contradictoire. On ne peut pas décider de la construction d'un tel équipement supplémentaire, je rappelle qu'on a déjà des équipements de même nature, comme on peut décider de la reconstruction d'un pont ou de la construction d'un restaurant scolaire supplémentaire. Un centre de congrès destiné au tourisme d'affaires n'est pas, de mon point de vue, un équipement de première nécessité. Oublier cette réalité, c'est tôt ou tard créer des difficultés importantes. Quel signal donnons-nous à la population de cette ville, de cette agglomération et de ce département, quand nous faisons du développement du tourisme d'affaires l'alpha et l'oméga de l'avenir de ce territoire, de ces territoires? Les uns et les autres, mairie de Metz, Metz Métropole, Conseil Général, ont-ils renoncé à la capacité de promouvoir des emplois producteurs de richesses dans l'industrie, dans l'enseignement, dans les services publics? 70 millions pour un centre des congrès au moment où la région Lorraine va investir 50 millions dans des projets industriels par emploi. Cherchons l'erreur. Nous avons appris, monsieur le maire, au cours d'un conseil municipal, l'existence d'une étude qui justifierait ce tel projet. Financé ou non par des fonds publics, la moindre des choses, me semble-t-il, c'est que cette enquête, ce document, cette étude soit publiée. C'est un minimum en démocratie. Au moment où la politique souffre, je le répète, de la politique d'austérité, les dépenses publiques et que les dépenses publiques sont soumises à de fortes réductions, hein, on voit ce qui est arrivé au budget de l'État, aux collectivités locales, bref, on ne peut pas dépenser, de mon point de vue, 70 millions d'euros essentiellement de fonds publics sur une simple affirmation qui, de mon point de vue, ne fait pas l'objet d'un argumentaire débattu de façon contradictoire, encore une fois. quand même, dans cette motion, il y a deux choses qui me semblent être tout à fait exactes. Il faut le rappeler. Les statuts ainsi rédigés permettront, de mon point de vue, un partenariat public-privé sans accord des assemblées délibératives. Deuxième réalité, que je veux également souligner, si le projet se fait, il y aura un seul gagnant qui sera sûr de garder, de faire fonctionner son tiroir guest. Je veux parler de l'exploitant, J.L. Evans, hein, fonds de pension américain, qui seront de toute façon les seuls gagnants de l'opération, si elle devait se mener à son terme. Une nouvelle fois, je vous demande solennellement d'organiser une véritable confrontation publique avant de poursuivre cette opération, pour faire vivre réellement la démocratie participative. Du temps des pyramides à aujourd'hui, les masses laborieuses sont devenues des citoyens avec des droits et des prérogatives. Je vous remercie.
Merci. Alors, madame, merci pour ces applaudissements, monsieur Maréchal.
Mais la droite peut écourter ses débats, il a tout dit.
Ça lui fait vraiment plaisir. Alors, madame Zimmermann,
si vous avez fini d'applaudir. Écoutez, monsieur le maire, j'ai l'impression de me retrouver à l'Assemblée nationale. Alors, écoutez, alors là, vraiment, je suis quand même un petit peu surprise. Écoutez, monsieur Maréchal a dit beaucoup de choses justes. Et je crois que vraiment, là, je suis un petit peu. Je suis dubitative. Hein. Vraiment, monsieur Maréchal, moi, je vous félicite parce que, au sein d'une majorité, être en capacité d'être réaliste, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Il va prendre la place de madame Quillot, d'ailleurs.
Voilà. Bien. Monsieur le maire, moi, ce que je souhaiterais vous dire, quand même, c'est qu'en fait, la ville de Metz, bon, c'est clair qu'elle doit travailler en étroite concertation avec le Conseil général, le Conseil régional, et il est tout à fait positif qu'il y ait des parts du Conseil général, Conseil régional, qui soient rentrées dans cette décision, mais... Monsieur le maire, moi, il y a quand même quelque chose qui, quand même, commence un tout petit peu à me préoccuper. C'est en fait que, je dirais que Moselle Congrès profitera à l'ensemble de l'agglomération. Et je dirais que la moindre des choses, c'est que Metz Métropole aurait pu quand même contribuer un tout petit peu plus. Alors, vous allez me dire que Metz Métropole est une jeune collectivité, que Metz Métropole n'a pas un budget suffisant pour... être en capacité d'avoir un pourcentage important. Mais malgré tout, je dirais que c'est à nouveau la ville de Metz qui représente 48%. Et savoir que la ville de Metz financera à la fois les 48% et en plus la moitié des 31% de Metz Métropole. Et qui est-ce qui est toujours... le grand perdant dans le système, c'est quand même le contribuable messin. Et là, monsieur le maire, il y a quand même quelques soucis à avoir, et moi, j'aimerais bien vous alerter quand même sur le fait que, déjà, il me semble que le palais des congrès, le congrès, certes, vous l'aviez, je crois, si mes souvenirs sont bons, promis. Par contre, je vous l'ai dit déjà lorsque nous avions eu le débat, moi, je crois qu'il n'est pas raisonnable de lancer une telle opération à quelques mois des élections municipales, parce qu'une nouvelle fois, vous laissez à la nouvelle municipalité, quelle qu'elle soit, j'irai encore une fois, un aspect, pas très terminé à la fois du système, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment le fait que vous engagiez quand même beaucoup de choses pour l'avenir après 2014. Alors, certes, les conseillers généraux de la ville de Metz au Conseil général ont voté favorablement pour ce projet, les quatre. J'ai vérifié, que ce soit vous, que ce soit Monsieur Toulouse, que ce soit Monsieur Jacquat ou Madame Griesbeck. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est... Bon, je ne voterai pas pour, je m'abstiendrai, parce que je pense que le contribuable messin en supporte déjà suffisamment. Merci.
Merci. Alors, Madame Collin-Osterlé.
Oui, Monsieur le maire. Sur ce palais des congrès, bon, tout le monde sait que c'est un palais des congrès est nécessaire pour développer son attractivité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut son palais des congrès. Et comme on a beaucoup tardé, on se retrouve dans une situation où finalement Nancy maintenant a le sien. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de choses au profit de Nancy. Nancy a le sien, voilà. Strasbourg a un palais des congrès, le Luxembourg a un palais des congrès. Et moi, je voudrais revenir sur l'aspect que j'avais souligné lorsqu'on avait eu un début de débat. Sur ce qui me semble être finalement surdimensionné. Moi, je reviens vraiment là-dessus. Je pense que 1200 places, c'est tout à fait surdimensionné. Quand on regarde des villes du Midi qui se contentent, et ça marche bien, mais qui se contentent de salles de 800 places, moi, je vous dis attention. Je pense vraiment qu'on est là dans le surdimensionnement, qu'on veut se faire plaisir. Mais je crois que ce n'est pas le sujet de se faire plaisir. Ce n'est pas le sujet d'être le plus beau, le meilleur. Le sujet, c'est que ça marche. 1200 places, c'est quoi? Ce sont des villes comme Toulouse, ce sont des villes comme Biarritz, Marseille, Annecy, Strasbourg aussi. Je vous avais donné l'exemple de Toulon, c'est quand même assez symptomatique. Toulon, c'est 800 places. Voilà. Bon. Pour la rentabilité de l'équipement, vous vous basez sur 36 congrès, je vous le redis, 36 congrès sur 8 mois de fonctionnement. C'est 8 mois. Décembre, janvier, il n'y a pas de congrès. Juillet, août, il n'y a pas de congrès. Donc, ça nous fait une moyenne de 4 congrès par mois pour rentabiliser l'équipement. Attention, attention. Quant au coût, forcément, si c'est surdimensionné, le coût me semble également très important. Alors, moi, je suis très contente de vous avoir entendu, Monsieur Maréchal, parce que c'est exactement ce que je pense, et je l'avais demandé, il faut qu'il y ait un débat. C'est un équipement qui nous engage pour des décennies, cette affaire. Donc, on ne peut pas comme ça, parce que vous nous dites que ça va marcher, on sait que ça va marcher, mais où elle est l'étude de marché? Moi, je ne l'ai pas vue, l'étude de marché. Qui a vu l'étude de marché? Donc, moi, je voudrais qu'on ait un vrai débat avec des documents circonstanciés, une étude de marché qui nous prouve qu'on est vraiment dans le bon dimensionnement et que ça va fonctionner avec tout ce qui se passe autour de nous. On n'est pas les seuls, quoi. On n'est pas les seuls à faire des congrès. Donc, j'avais demandé en tout cas à ce qu'il y ait une commission spéciale qui se mette au travail. Vous savez, monsieur le maire, là pour le coup, ce serait quand même intéressant que vous répondiez à cette demande. Nous vous tendons la main pour travailler avec vous sur ce sujet. Voilà, faites preuve d'ouverture. Vous vous dites grand démocrate. Ouvrez, mettez en place une commission, que l'opposition y participe et qu'on prenne une décision en toute connaissance de cause. Et après avoir vu, effectivement, l'étude de marché qui est absolument indispensable pour prendre une telle décision. Voilà, je vous remercie.
Merci, madame. Alors, monsieur Lebout.
Monsieur le maire, chers collègues, je suis heureux que Jacques Maréchal ait rejoint le camp de l'opposition et émis une fois de plus de ses doutes sur la gestion de la municipalité. Et je suis souvent d'accord avec lui. Et parce qu'il fait preuve de bon sens, parce qu'il fait preuve de bon sens et de liberté, ce qui est rare dans votre majorité, parce que ce n'est pas un godillot et il ose dire ce que beaucoup de gens de votre majorité pensent tout bas. Et je tiens à lui tirer un coup de chapeau pour sa liberté et son indépendance. Parce qu'en pleine crise économique et des finances publiques, on peut émettre 5 doutes sur ce projet des palais des congrès. Premier doute, c'est l'utilité aujourd'hui d'un tel équipement à Metz. Alors, vous allez nous dire qu'un palais des congrès, c'est consubstantiel à une ville. Et donc, on se doit d'avoir un palais des congrès, parce que c'est comme ça, c'est comme une église, on doit avoir un palais des congrès. Alors, et parce que c'est le dynamisme, c'est le développement économique. Mais le marché des palais des congrès, ce n'est pas un marché extensible à l'infini. C'est un marché raisonné et qui a sa propre organisation. Souvent, les congrès, les gros congrès, tournent dans les régions. Et on l'a une fois tous les 22 ans, puisqu'ils tournent sur les 22 régions. Or, en Lorraine, on a déjà un problème, comme l'a souligné Nathalie Collin-Osterlé, c'est que Nancy a déjà fait son palais des congrès. Et qu'en Lorraine, on va dépenser, si on vote ça, plus de 130 millions d'euros cumulés, Nancy et Metz, pour faire deux palais des congrès. Alors, comme l'a justement dit Jacques Maréchal, c'est que c'est 50 millions qu'on veut mettre sur l'industrie, sur le développement industriel en Lorraine. Mais je crois qu'on marche sur la tête. Le tertiaire, à un moment donné, il faut créer de la véritable valeur ajoutée, et la véritable valeur ajoutée passe par l'emploi industriel et pas toujours par le tertiaire. Et je me demande quand même s'il y a un pilote dans l'avion sur le sillon lorrain et s'il y a un schéma régional quand je vois que en quelques années, on est prêt, à Metz et à Nancy, de créer chacun son palais des congrès. Alors vous allez me dire, le palais des congrès, c'est nécessaire parce qu'on a fait le centre Pompidou. Et que si on a fait le centre des Pompidou, il faut bien tirer les fruits du centre Pompidou, et donc il faut faire un palais des congrès. Et là, j'ai l'impression du tonneau des Danaïdes. Parce que bientôt, vous allez me dire, parce qu'on a fait le palais des congrès, il va falloir faire autre chose, etc. Et c'est la fuite en avant dans la dépense publique et l'investissement, parce que ni l'un ni l'autre ne rentabilise quoi que ce soit. Et à la fin, ce qui est sûr, c'est que la dette des collectivités locales vont exploser. Et sans aucune garantie du développement économique et de l'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, malheureusement, le centre Pompidou, au bout de 3 ans, c'est pas gagné. C'est difficile à le faire vivre. Alors vous pouvez me dire, vous voyez, c'est autant d'éléments pour nous dire qu'il faut ce palais des congrès. Alors, deuxième doute, monsieur le maire, sur le choix de la capacité de 1200 places. Et la dernière fois qu'on a eu le débat, votre adjointe, madame Cossic, nous disait, il nous faut un palais des congrès de plus de 1000 places parce que je n'ai pas pu faire le congrès des HLM. Parce que, vous voyez, il y a un besoin. Alors moi, ce qui est amusant dans ce conseil, c'est qu'on va financer des assises, du journalisme, où il y aura plus de 1000 participants. Ce qui montre qu'à Metz, on a aujourd'hui la capacité d'accueillir un congrès qui réunit plus de 1000 journalistes. Hein, ça sera le 5, 6, 7 novembre 2013, c'est la motion... je ne sais plus combien de numéros, je crois que c'est la 13, voilà, 38, excusez-moi, où on va décider de financer ces assises et donc ce congrès. Donc aujourd'hui, on peut accueillir à Metz des congrès de plus de 1000 participants. Alors on va me dire, oui, mais il faut quelque chose de gros, parce que Thierry Jean, ils aiment bien les trucs gros qui claquent. Voilà. Alors, il veut un bâtiment de 22 mètres de long. Alors, on avait fait déjà un métis super long. Alors, on va faire un immense bâtiment de 22 mètres de long avec un auditorium de 1200 places pour être le premier en Lorraine, mais seulement le 16e en France. Alors que les congrès de 1200 places, on joue au niveau européen. Alors déjà, on est 16e au niveau français. Monsieur Jean, on sera le combienième au niveau européen? Ça, c'est des vraies questions. Alors après, on peut se dire, est-ce que l'on a la capacité hôtelière? Est-ce qu'on a la capacité de restauration? Et la question que tout le monde se pose, et que Monsieur Maréchal a posée, et que Nathalie Collin a repris, et que Marie-Jo Zimmermann a repris, c'est où est l'étude de marché pour établir la nécessité de construire un auditorium de 1200 places? Nulle part! Troisième doute, monsieur le maire. L'emplacement. La ville doit se reconstruire sur elle-même. Et Metz, vous avez dit, ou Metz, ou l'agglomération Messine, a d'énormes friches. Et là, je crois qu'on est très surprenant. On va vous souhaiter mettre le palais des congrès adossé à la gare, là où il y a un surcoût, parce qu'il y a un répéteur qu'il va falloir déplacer. Alors on va voir que Richard Lioger est le roi du bonneteau et que le surcoût de 7 millions d'euros lié au répéteur, il le remet d'un côté. Parce que sinon, ce n'était pas 70 millions d'euros le coût de financement de ce palais des congrès, c'était plus de 77 millions d'euros. Mais comme on n'arrivait pas à le financer, il a bien fallu que quelqu'un prenne les 7 millions d'euros supplémentaires et prenne la paume. Mais je me demande s'il y a quelqu'un qui marche sur la tête, s'il y a un pilote dans l'avion. Aujourd'hui, où il y a un problème de finances publiques énorme, où on voit que dans notre pays, dans notre région, en Europe, on a de moins en moins de moyens, nous, on a la capacité de vouloir mettre un palais des congrès là où ça génère 7 millions d'euros de surcoûts. Je veux dire, monsieur Lioger, vu que vous n'arrivez pas à sortir le Muse, ben, il y aurait peut-être un emplacement qui coûte nettement moins cher. Essayez de le mettre là. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut sortir des schémas, sortir de votre vision en noir et blanc et créer quelque chose de nouveau. Alors, il y avait d'autres propositions, mais je pense que ces autres propositions, elles feront l'objet d'un débat avec les médecins. Quatrième doute, c'est le montage juridique. Mais je crois que là, alors je ne parle pas de l'époque où vous aviez imaginé de créer une SPL qui allait donner un PPP, qui était une usine à gaz juridique. C'était tellement une usine à gaz juridique que la seule personne qui est un peu visionnaire, qui est le président du Conseil général, vous a dit stop, on arrête là, personne ne va rien comprendre. Donc vous avez dû faire marche en arrière, parce que sinon, le président du Conseil général n'allait pas dans votre usine à gaz juridique. Alors, on a maintenant... Mais je vous ai pas interrompu, voilà. Donc aujourd'hui... Non mais je sais bien que tout ceci, ça vous fait beaucoup de mal, que vous avez énormément de mal à écouter la vérité sur ce dossier qui est une fois de plus...
Laissez parler Monsieur Lebeau, s'il vous plaît.
Qui est une fois de plus mal monté, mal ficelé, mais écoutez les remarques d'un débat démocratique où on vient avec des éléments chiffrés, étayés, où les chiffres sont les chiffres, où je ne viens pas inventer des chiffres, où moi je ne donne pas des allégations sans donner sans support réel. Donc je dis qu'aujourd'hui vous nous proposez de faire une SPL qui est très surprenant, parce qu'un des partenaires, qui est la Chambre de commerce et d'industrie, ne peut pas rentrer dans le capital, alors que si on avait fait une société d'économie, elle aurait pu rentrer. Alors pourquoi faire une SPL? Jamais on nous a donné la réponse. Ou si, on connaît les affres de la SPL et le manque de transparence d'une SPL par rapport à une société d'économie mixte. Donc aujourd'hui, je dis que la SPL n'est pas bon et qu'on devrait aller au mieux vers une société d'économie mixte où on pourrait faire rentrer des acteurs économiques comme la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, qui, elle, est plus proche des entreprises que vous. Dernier doute, attendez, parce que Maître Gandard, comme il me fait penser à d'autres points qui ne sont pas justes.
Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Directement ici. Directement ici, allez-y.
Merci. Mais si vous pouviez faire un peu le silence.
Allez-y.
Merci. Donc, monsieur le maire, sur le point de vue juridique, il y a aussi des choses qui sont surprenantes. C'est-à-dire que la répartition du capital n'est pas équivalente au montant investi. Ni la répartition des sièges. On a une surreprésentation du Conseil général par rapport au montant investi. Et là, on peut se poser des questions sur la répartition et des actions et des sièges. Et enfin, le dernier doute, c'est sur le budget. 70 millions d'euros. Ce chiffre est tellement important qu'il crée même le doute pour M. Maréchal, qui est dans votre majorité. Vous devriez l'écouter. C'est quand même quelqu'un de bon sens. Et il se dit, quand même, 70 millions d'euros en pleine crise économique et sociale, on ne peut pas. Parce que maintenant, on va prendre des ratios au mètre carré. Parce que Thierry Jean, tout ce qui touche, ça coûte et ça dépense très cher. Donc, les ratios, on peut prendre le bâtiment de l'ENIM. Le bâtiment de l'ENIM, c'était 18 000 mètres carrés, il a coûté 38 millions d'euros. Et vous nous proposez de construire un bâtiment qui va faire 16 000 mètres carrés pour 70 millions d'euros, soit le coût au mètre carré de 4 375 euros le mètre carré, soit 20 à 25 % plus cher que les autres, sans tenir compte
du coût du répéteur de 7 millions. Donc on serait à plus de 5 000 euros le mètre carré. Donc, aujourd'hui, Metz Métropole, qui a la compétence, n'a même pas les moyens de ses ambitions de faire un palais des congrès. Donc elle demande à la ville de Metz de venir à la rescousse et de venir mettre les 30 millions, comme l'a justement dit Marie-Josée Zimmermann sur la problématique des 30 millions des compétences. Et donc, aujourd'hui, la problématique, c'est de se dire pourquoi la ville de Metz va mettre 30 millions d'euros. Ces 30 millions d'euros ne sont pas au plan triennal d'investissement. On ne sait pas où on va les trouver. Ça n'ira forcément, pour pouvoir les mettre, les 30 millions d'euros, pas de l'endettement. Donc, on va endetter les médecins pour pouvoir porter un projet dont on ne connaît pas ni l'utilité, ni les capacités à développer l'économie. Donc, ces 5 doutes sur ce projet nous conduisent à nous abstenir. Je vous remercie, monsieur le maire.
Ça avait déjà été dit par madame Zimmermann. Donc, merci. Alors, monsieur Lioget.
C'est très sûr.
Je sais pardon, quel est l'ordre ? Ah non, monsieur Thiel, pardon, excusez-moi, monsieur Thiel. J'ai perdu mon papier, voilà.
C'est gentil, ça.
Allez-y,
c'est
monsieur Thiel. Avez-vous des doutes, là ?
Oui, monsieur le maire, je vais être obligé d'apporter quelques nuances.
Faites.
Des nuances de bleu. Alors, je ne sais pas s'il sera le même succès populaire que les nuances de gris, qui est, je crois, un roman populaire avec beaucoup de ventes. Mais je l'espère pour l'opposition que ça aura le même succès, en tous les cas, que le roman. Alors, quelques nuances. D'abord, je voudrais vous dire, monsieur le maire, faut-il un palais des congrès à Metz, un nouveau palais des congrès ? La réponse est oui. Pour notre expression. Faut-il à Metz un palais des congrès justement à côté du centre Pompidou et à côté de la gare ? La réponse est oui.
Merci, ben c'est bien.
Est-ce qu'il faut
ça, un...
Alors, attendez. Bon, est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Je regrette, nous regrettons tous, et je m'exprime au nom de tout mon groupe qui m'a bien demandé de le faire, nous regrettons que ça arrive aujourd'hui. S'il avait été commencé hier... C'est-à-dire juste à votre élection, comme on vous l'a tellement recommandé et demandé, et non pas avant, au moment de votre élection. Vous savez pourquoi au moment de votre élection, monsieur le maire ? Parce que des voix de sagesse disaient que quand on faisait un gros investissement, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu Pompidou, on en faisait un par mandat.
Ouais, mais là c'est déjà fait un par mandat.
Non, mais c'est pour vous dire. Je disais ça pour lorsque tout à l'heure madame Zimmermann vous disait on peut pas tout faire au même moment, je crois que ça participe du même discours. Je dis exactement la même chose, c'est-à-dire que il fallait le commencer au début du mandat et c'est ce qu'il fallait faire. Alors Nancy, on aurait été avant Nancy, cher Emmanuel. Bien. Alors assez réponse franche à ces questions franches, faut-il un palais des congrès ? Oui. Faut-il à cet endroit ? Oui. En revanche, je vous dirais, monsieur le maire, que nous manquons pour le moment quand même toujours d'un certain nombre d'éléments d'information. Premièrement, vous nous dites, et monsieur Thierry Jean dans son rapport l'a redit, nous construisons le palais des congrès adossé à la gare. Oui, très bien, mais ce que nous souhaitons, je le répète à nouveau, c'est qu'il soit adossé pour qu'il y ait une continuité immobilière entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on se situe exactement dans la même problématique que le palais des congrès de la Porte Maillot, par exemple, où l'on passe à l'intérieur d'un bâtiment, de l'hôtel au palais des congrès. Il s'agit là que l'on passe à l'intérieur d'un bâtiment, de la gare au palais des congrès. C'est-à-dire qu'on pourrait y adjoindre quelques cellules commerciales peut-être si l'on veut, mais qu'il y ait vraiment une continuité immobilière entre les deux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un extraordinaire argument de vente vis-à-vis des congressistes que leur dire vous prenez le TGV et quand vous arrivez avec le TGV, vous êtes dans le palais des congrès. Et ceci me paraît extrêmement important. Pourquoi la juxtaposition avec Pompidou me paraît extrêmement importante aussi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que les palais des congrès qui ont le plus de succès pour l'organisation des congrès sont un en centre-ville et deux qu'ils sont, je dirais, complètement à proximité des gares. Nous, on a la chance extraordinaire d'avoir une sorte de centre-ville, parce que le centre-gare, le quartier impérial l'est, le centre Pompidou est un lieu d'attraction. C'est d'ailleurs pour ça que finalement Metz a été choisi, c'est qu'on pouvait faire une architecture contemporaine dans un centre-ville. Et même avec la concurrence de Nancy, ça n'a pas marché. Ça a été bon pour Metz. Et cet aspect des choses est extrêmement important aujourd'hui pour les congressistes qui ne veulent plus prendre de voitures, de transports, etc., pour ensuite se balader et faire le bonheur du commerce. Alors, le premier point sur lequel nous avons une incertitude, mais peut-être que ce n'en est pas une, que vous allez la lever, c'est vraiment à cet adossement et cette continuité immobilière. Deuxième aspect des choses, et là je rejoins complètement les propos qui ont été tenus, à la fois par Emmanuel à un moment et Nathalie Collin-Osterlet, c'est sur son dimensionnement. Alors nous ne vous disons pas c'est trop, on dit on ne sait pas. Et je crois que c'est exactement le sens. C'est-à-dire, nous avons un doute sur la capacité de vente des 1200 places. C'est tout, c'est un doute. Peut-être que c'est bien de le faire, mais nous, à l'heure actuelle, nous n'en savons rien. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel commerçant qui veut développer une enseigne sait qu'il fait d'abord une étude de marché, qu'il étudie la zone de chalandise, etc., et qu'il faut se situer à l'échelon européen. Nous n'appuyons pas assez notre image européenne. Nous sommes à la frontière, nous espérons des congressistes français, mais pourquoi pas demain des congressistes belges, luxembourgeois ou allemands ? Et ou espagnol, ou etc. Mais la proximité du centre Pompidou est à cet égard un argument de vente. Alors, peut-être que 1200 places, c'est bien, mais qu'est-ce qui justifie ce choix ? Permettez-moi de vous dire, monsieur le maire, qu'il faudra faire très attention au concours, et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est-à-dire l'esthétique de ce palais des congrès. S'il y a encore peut-être une pièce majeure sur ce quartier et d'un point de vue urbanistique à implanter, c'est évidemment ce centre des congrès. Et je ne reviendrai pas sur ce que nous considérons. Ce n'est pas que Patrick Thiel, c'est que nous considérons comme un certain nombre d'erreurs architecturales sur le quartier de l'amphithéâtre. On y reviendra peut-être plus tard. Mais il y a un point sur l'ordre du jour à ce niveau. Mais là, au moins, sauvons, je dirais, à nouveau cette zague de l'amphithéâtre et ce palais de Pompidou avec un centre des congrès qui soit vraiment une marque très forte d'un point de vue architectural et qui puisse refléter par exemple ce centre Pompidou qui louait à la fois la discrétion des miroirs aujourd'hui pour dire les choses de manière un peu plus franche. Voilà, monsieur le maire, deux ou trois incertitudes qui font que sur le principe nous sommes favorables naturellement à ce palais des congrès. On regrette évidemment amèrement qu'il n'arrive qu'aujourd'hui. Nous avons des interrogations sur le financement parce que comme il s'agit d'approuver ici une société qui va être constitutive de ce projet, je rejoins alors tout ce qu'ont dit mes collègues, donc je n'y reviens pas. C'est-à-dire la part de la ville de Metz est extrêmement importante alors que c'est un engagement métropolitain et que d'un autre côté, notre représentation d'élus en tant que ville de Metz est moins importante que ce qui est l'apport de la ville sur le plan financier.
Est-il ? Il reste deux intervenants inscrits, M. Lécadir et M. Liogé.
Oui, Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais d'abord dire à mon ami Jacques, cher camarade maréchal, que se faire applaudir par les libéraux, comme tu disais, ça doit faire drôle. Mais pourquoi pas. Pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, je voudrais dire la fierté de faire partie de cette majorité qui ose et qui a le courage et qui ose l'avenir et qui a le courage de l'avenir. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, sans avec vous, on n'aurait pas eu le métis. Et si j'écoute une partie de l'opposition, et de ce point de vue-là, je vous rends hommage, monsieur Thiel, pour votre cohérence politique. Au moins, vous êtes dans un discours, j'allais dire, construit. Vous avez dit hier qu'il fallait un palais des congrès. Je comprends que vous allez le soutenir, parce qu'en entendant la première partie des interventions de l'opposition, je croyais me pincer. Il fallait attendre, il fallait débattre. C'est pas une bonne idée. Nancy l'a fait. On se définirait maintenant par rapport à notre ville voisine. Tout ceci me laisse dire que ça manque cruellement de crédibilité. Et que le métier d'opposant doit être un métier très dur, parce que quand il faut toujours dire non, c'est un peu compliqué, parce que hier, vous étiez les premiers à dire qu'il fallait faire le palais des congrès, et aujourd'hui, le discours visiblement change. Je note aussi en effet la preuve de l'unité de la droite messine sur ce point-là. Alors on verra au moment du vote, mais moi je vous appelle au courage de voter ce point, au courage d'oser l'avenir, parce que le Palais des Congrès et Thierry Jean va apporter les réponses techniques sur le nombre de places, etc. Le Palais des Congrès est plus qu'utile à notre ville, il faut le faire, alors ayez le courage de ne pas attendre, ayez le courage d'oser l'avenir.
Merci, Monsieur Lyogé.
Oui, merci, Monsieur le maire. Chers collègues, j'annonce un petit peu, comme vient de le faire notre collègue Le Cadir, que, à l'opposition, que le Palais des Congrès, ça va vous faire comme Métis. Au début, vous êtes contre, et puis après, vous allez être pour, et c'est même grâce à vous, presque, qu'on va... Et pour le Centre Pompidou, c'est pareil. Bien. Donc, si on vous écoute, tout le monde est d'accord avec le Palais des Congrès. Le Conseil général 57, dans l'opposition, oui. Enfin, dans la composition est quand même largement à droite. La CCI, qui est pour. Donc, les milieux économiques que vous êtes censés représenter, enfin, en tout cas, dans le discours de certains tout à l'heure à l'endroit de M. Thierry Jean, c'était vous, les porteurs du milieu économique et commercial, et là, d'un seul coup, vous êtes contre, alors que la CCI est pour.
On n'est pas contre.
Je crois que tout ça... Alors, on verra si vous n'êtes pas contre, parce que votre discours est extrêmement ambivalent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et il faut aller jusqu'au bout, quand on a des doutes, comme certains l'ont dit, il faut voter contre. Si vous avez... Enfin, merde. Ensuite, bon, ça a été dit, et je vais surtout me focaliser sur les questions urbanistiques qui ont été posées concernant le Palais des Congrès. D'abord, pour regretter une chose, et on verra d'ailleurs dans une des délibérations tout à l'heure que nous vous proposons, c'est que cette assiette foncière n'ait pas été intégrée dès le début dans la ZAC de l'amphithéâtre. L'assiette foncière sur laquelle nous allons travailler, on parlera peut-être du répéteur, parce que personnellement, je ne connais pas encore exactement le coût de ce déplacement de répéteur. Vous avez de la chance, monsieur, de le connaître. Et on ne sait pas non plus la participation de la SNCF au déplacement de ce répéteur. Il est effectivement indispensable et on peut regretter que cette assiette foncière qui est restée pendant des années, je dirais, un petit peu une verrue à côté du centre Pompidou, n'ait pas été, je dirais, intégrée à la ZAC de l'amphithéâtre beaucoup plus tôt. Je dirais deux mots sur la SPL, parce qu'il y a tellement de choses contradictoires et même des mensonges qui sont dits. La SPL, et là je le dis aussi pour M. Maréchal, c'est vraiment une garantie, puisque les actionnaires de la SPL sont tous des collectivités publiques. Et la SPL, qui a été, sur la loi, a été votée à l'unanimité de la représentation nationale, je crois même que Mme Zimmermann me l'a dit, elle a voté cette loi, montre effectivement une transparence complète avec ce qu'on appelle le contrôle analogue, et elle est soumise aussi au contrôle de la Chambre régionale des comptes. C'est un peu énervant qu'à chaque fois qu'on parle de SEM ou de SPL, vous distilliez, certains d'entre vous en tout cas, une suspicion autour de la transparence. Je crois qu'il n'y a pas des outils qui sont plus transparents que ces deux outils et plus réactifs que sont les SEM et les SPL. Et encore une fois, l'unanimité de la représentation nationale, c'est suffisamment rare pour dire qu'effectivement, ça a été un grand pas en avant de la création de ces SPL. Bon, je ne veux pas être trop long et dire que le travail sur l'assiette foncière a commencé, effectivement, avec la SAREM. Notre ambition avec Nicolas Michelin est dans la continuité de ce que nous avons fait avec nous. Je rappelais que l'urbaniste de la ZAC de l'amphithéâtre est Nicolas Michelin, qu'il avait été choisi par l'actuel jadis naguère, comme on dit, et que nous avons continué à travailler avec lui, et que les réalisations actuellement que vous trouvez, que vous contestez sur la ZAC de l'amphithéâtre ont été faites en harmonie avec cet urbanisme que vous avez choisi. Et nous allons continuer, et là je suis d'accord avec Patrick Thiel, je crois qu'il faut que le geste architectural de... D'abord, l'assiette foncière, on est complètement d'accord, je le redis pas... Quasiment d'accord avec tous vos propos, chers collègues, mais il faut aussi peut-être faire un geste architectural relativement simple. Hein, on est en face de Pompidou, qui a une architecture très forte. Et je crois qu'effectivement, il faut quelque chose de fonctionnel et de relativement simple. Et de modeste, me dit le maire, je crois que c'est effectivement quelque chose sur lequel nous allons, une esthétique vers laquelle nous allons nous diriger. Notre ambition, je terminerai là-dessus, notre ambition, c'est, je dirais tout simplement, de créer l'entrée sud de la gare. Hein, oui. Cette entrée sud qui avait été délaissée jusqu'à maintenant devra être précisément marquée d'un point de vue urbanistique. Et quand je dis l'entrée sud, c'est ce qui se passera, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur l'assiette foncière, si on peut revenir en arrière, c'est ce qui se passera finalement entre le Palais des Congrès et l'hôtel. Alors je laisserai d'autres peut-être répondre sur la question de la capacité hôtelière, mais je peux vous dire que beaucoup d'investisseurs sont aujourd'hui intéressés pour construire cet hôtel en face du Palais des Congrès, parce qu'on est absolument certain que tout ça va fonctionner de manière optimale. Merci.
Merci. Monsieur Thierry Jean.
Oui, j'ai essayé de synthétiser un petit peu, même si j'ai pas forcément compris. Est-ce qu'on va ruiner GL Events? Est-ce qu'on va enrichir GL Events? Mais apparemment, les avis sont partagés. La viabilité de cet équipement, elle repose, je l'ai déjà dit, sur une étude qui avait été faite par la collectivité, qui a été actualisée, et que ce soit la version initiale de 2007 ou la version actualisée, qui démontre qu'en fait, il y a une demande sur les grosses capacités, parce que la demande sur les petites capacités, elle est très largement pourvue. On ne peut pas d'un côté dire il est trop grand et on est en concurrence avec Nancy, donc il faut le faire plus petit, sachant que si on le fait plus petit, alors là, il aura exactement la même taille que celui de Nancy. Nancy, est-ce qu'il y a un schéma régional? Il y a un schéma régional des congrès? Non, mais implicitement, bien évidemment, nous discutons avec nos partenaires nanciens. Ils ont un palais des congrès qui a pour vocation d'accueillir plutôt des congrès scientifiques. Eux, ils ont eu le souci d'avoir un équipement qui permet d'accueillir deux petits congrès en même temps. Ce que j'appelle un petit congrès, c'est 300-400 participants. Ils sont capables d'en accueillir deux. Nous visons d'autres congrès qui sont plus les conventions d'entreprise, les congrès professionnels. Et ces études ont été confortées par les études qui ont été menées par GL Events, dont vous n'avez pas connaissance. Pour la bonne et simple raison que GL Events, c'est une entreprise qui est sur un marché concurrentiel et que je ne connais aucune entreprise qui diffuse largement ses études de marché. Donc, eux non plus. Simplement, ils ont signé, et s'ils ont signé, c'est parce qu'ils y croient, et qu'ils y croient sur la base de la taille de l'équipement. Alors, on peut considérer que ce sont des méchants capitalistes qui nous escroquent, on peut considérer que ce sont des imbéciles qui ne connaissent pas le marché, mais il se trouve que c'est le numéro un européen, c'est le numéro un européen, et s'ils ont signé, la viabilité économique de l'équipement, elle est garantie. C'est le délégataire qui prend le risque, d'accord? Donc, si le délégataire prend le risque, c'est qu'il a, il estime en toute connaissance de cause, après avoir réalisé ses études, qu'il y avait un marché. Ce marché, ça a été dit, il dépasse bien évidemment les frontières. On a toujours tendance à raisonner par rapport à la France. Sommes-nous vraiment plus en concurrence avec Acropolis à Nice ou avec le Palais des Congrès de Toulouse qu'avec le Palais des Congrès de Luxembourg? A priori, non. Est-ce qu'il peut y avoir des Wallons en congrès à Metz? A priori, oui. Donc, tout ça fait que, bien évidemment, il faut avoir un raisonnement différent. Et moi, je peux vous assurer que la stratégie de GL Events, elle n'est pas Lorraine, elle n'est pas Grand Est, elle est grande région. Et GL Events, évidemment, eux, ce qui les intéresse, ils ont le Palais des Congrès de Bruxelles, ils ont celui de Metz, et ce qui les intéresse, c'est une répartition du marché, et j'ai des raisons de leur faire confiance. Bon, l'étude sur les retombées, c'est une étude qui a été réalisée par France Congrès, qu'on doit trouver en deux clics sur Internet, je l'ai évoqué la fois dernière, je ne l'ai pas avec moi, c'est 400 euros de retombées par congressiste, de chiffre d'affaires ou de dépenses par congressiste, ça justifie, c'est une des formes, c'est absolument pas la seule forme. C'est pas parce qu'on fait un palais des congrès qu'on n'aime pas l'industrie, c'est pas parce qu'on fait un palais des congrès qu'on n'aime pas l'économie. Non, c'est une façon de valoriser la richesse de la ville, c'est une façon de contribuer à l'attractivité de la ville, ce n'est évidemment pas la seule. Quant au coût, alors, si on commence à tirer des ratios au mètre carré, il faut parler de choses qui sont comparables. Le coût travaux de l'opération Palais des Congrès, telle qu'elle est estimée aujourd'hui, c'est 36,8 millions d'euros. D'accord ? Simplement, pour éviter que dans 5 ans, on soit cité en exemple en disant « ils avaient dit 36,8 », c'est ce qui vient d'arriver à Jean-Marie Roche il y a quelques semaines, hein, ou quelques jours même dans un journal, où on dit « voilà, il avait dit 36, ça a fini à 70 ». Non, il avait toujours dit 32 de travaux, plus, et l'estimation, l'erreur, elle était de l'ordre de 7 à 8% au bout du compte, donc ça ne justifie pas du tout. Donc nous, on va pas dire « il y a un coût de travaux de 36,8 », puisqu'au bout du compte, bien évidemment, il faudra l'équiper, il faut acheter le foncier. Il faut acheter le foncier, parce que nous achetons le foncier. Il y a 1,6 million qui servent à acheter le foncier, parce qu'il y a des aménagements qui sont pris en charge par la SAREM. Alors certes, la SAREM va déplacer le répéteur, ça va coûter plus d'1,6 million. Ben, on espère, et c'est comme ça que ça se passe, que la SAREM ailleurs vend de la charge foncière plus chère qu'elle ne lui a coûté, et l'objectif c'est qu'en 2025 ou en 2050 qu'on la clôture, hein, enfin que la ZAC soit équilibrée, mais il y a de la charge foncière dans le budget. En ce qui concerne le montage juridique entre SPL et SEM, il y a une différence essentielle, c'est que si nous créions aujourd'hui une SEM, il faudrait lancer un appel d'offres pour confier la construction du Palais des Congrès éventuellement à cette SEM, éventuellement à d'autres. Ce n'est pas forcément pratique. Concernant le PPP, on ne fera pas de PPP. On ne fera pas de PPP. Ça a été dit de manière extrêmement claire. Ce n'est pas à Weitten. Weitten est assez content de ses PPP dans ses collèges. Hein, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui plusieurs fois. Et on a toujours dit qu'il fallait que les trois collectivités soient d'accord sur un montage. Les trois collectivités sont d'accord sur un montage et ça roule. En ce qui concerne la répartition, Madame Zimmermann, l'AGLO a inscrit 10 millions d'investissements. L'AGLO s'engage sur 550 000 euros annuels et l'AGLO reversera la redevance du délégataire de l'ordre de 150 000 euros. En fonction de la durée de l'emprunt qui va être contracté et remboursé avec ces sommes-là, l'AGLO mettra entre 30 et 40 millions d'euros. Donc elle sera vraisemblablement in fine, quand l'opération sera débouclée dans 25 ans, elle sera légèrement au-dessus de la ville de Metz. Donc la ville de Metz à 48%, l'AGLO n'en a que 31%, certes parce que la ville fait l'effort au départ et c'est légitime, mais in fine, et il faut quand même aussi admettre que les retombées, elles seront partagées, hein, parce que les hôteliers, eux, paieront la CFE, la CVAE, ils la paieront à l'AGLO. Par contre, ils paieront aussi de la taxe foncière. Les dépenses qui sont réalisées profitent plutôt à Metz qu'à Coin-l'Écuvry. Donc, c'est assez légitime, bien évidemment. Hein. Voilà, il y a des gens qui iront jouer au golf à Marly pendant qu'ils sécheront leur session de congrès. Et la décision du maire d'investir dans ce palais des congrès, c'est parce que, évidemment, la ville aura plus de retombées que l'agglo. Je ne reviendrai pas, parce que Richard l'a dit, mais c'est un souci qu'on partage tous, bien évidemment, le souci de la qualité architecturale, le souci de la parfaite symbiose entre la gare d'une part, le palais des congrès d'autre part, l'hôtel d'une troisième part, tout ça est une évidence. Et je terminerai par... J'ai perçu certaines inquiétudes, je voudrais vous rassurer en termes de calendrier. Hein, l'attribution du contrat, si par exemple c'est un contrat de conception-réalisation, doit intervenir, compte tenu des délais de consultation, des délais de réponse, doit intervenir en septembre 2014, ce qui est un double témoignage de confiance, confiance dans la pertinence de notre projet et confiance aussi dans le choix des médecins. Et si d'aventure les médecins se trompaient, en vous choisissant vous, hein, eh bien, vous pourriez faire marche arrière, hein, comme certains l'évoquaient quand il s'agissait éventuellement d'arrêter Pompidou. Eh ben là, vous pourrez toujours arrêter le palais des congrès avec un avantage. Avec un avantage, c'est qu'il n'y aura pas de grue, hein, il y aura juste un contrat à signer ou à pas signer. Il faudra rémunérer les gens qui ont participé au concours, mais ça, c'est déjà inscrit au budget à Metz Métropole. Hein, la rémunération, elle est passée en crédit de paiement, elle a été votée en crédit de paiement. Donc, tout ira bien, ne soyez pas inquiets. Les choses s'annoncent pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous remercie.
Merci, monsieur Thierry Jean. Je pense qu'en fait, il s'agit d'un débat très politique. Monsieur Thiel a posé un certain nombre de questions. Il était très mal à l'aise pendant les interventions précédentes parce que dans l'opposition, il n'y a pas les mêmes positions. J'ai tout écouté avec attention, avec soin. Et C'est dur, c'est la même chose dans la majorité, il y a M. Maréchal. C'est vrai. Mais alors, s'agissant de l'opposition, c'est la bouteille à l'angle. Parce que j'ai entendu trop tôt, trop tard, trop grand. J'ai pas entendu trop petit, non. Je reconnais. Et j'ai entendu surtout pas là. Et pas maintenant. Alors, je vais répondre à M. Thiel, qui a été courtois comme d'habitude, et précisément à ces questions. Oui, oui, oui à vos trois questions. Près du centre Pompidou, adossé à la gare dans un même geste permettant aux gens de sortir de la gare et d'entrer dans le palais des congrès. Et en ce qui concerne votre troisième question, c'était trop tard. Trop tard, vous me dites trop tard. Bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là. Il est vrai que je n'ai jamais entendu dans cette assemblée des gens nous reprocher de faire trop de travaux. Jamais. Hein? J'ai même, me semble-t-il, entendu, je ne sais plus si c'est vous, monsieur Thiel, mais oui, c'est vous, je le sais. Mettez à la cape, réduisez la voilure. N'investissez pas trop, c'est la crise. Ça, c'est vous, monsieur Thiel. Je vous ai dans les oreilles parce que vous avez une très belle diction, on vous retient bien. Et là, on n'a pas assez avancé. Je vais vous dire, on n'a pas arrêté. Et nos investissements, effectivement, la machine à investir, je cite encore le point, effectivement, on a beaucoup investi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? La compétence du développement économique revient à Metz Métropole. Les gens de Metz Métropole, quand ils ont fait leur campagne municipale, dans toutes les différentes communes de Metz Métropole, il y en a 40, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis sur leur programme « on va faire un palais des congrès ». Il se trouve que moi, je l'ai mis. Et après ça, il n'y en a pas beaucoup non plus qui avaient prévu de faire un métis. Il se trouve que moi, j'avais prévu de faire un transport en commun en site propre. Et ainsi de suite, sur beaucoup d'investissements. Il faut reconnaître que les collègues de Metz Métropole, ils ont eu progressivement à prendre en compte tous les projets qui étaient les nôtres, peut-être même les vôtres, monsieur Thiel, si vous aviez été là. En tout cas, c'était les miens. Et s'agissant de celui-là, je voudrais d'une part rendre hommage à certains choix de jadis naguère. Je voudrais parler de GL Events pour la foire et vous expliquer comment ça s'est passé pour la suite. GL Events gère la foire. En ce moment, GL Events gère la foire et la foire rapporte à Metz Métropole. Tous les ans, il y a un dividende qui est versé à Metz Métropole. Des villes voisines de Metz, je vous ne dirai pas lesquelles, des grandes villes, proches, c'est le contraire. Il faut que, tous les ans, l'agglomération mette de l'argent dans la foire. C'est la différence. Et notre projet de Palais des Congrès, il a été, dès le départ, décidé de le confier à GL Events. Il y a eu une décision de Metz Métropole, elle est déjà relativement ancienne, dans un but de cohérence entre tout ce qui est foire et tout ce qui est congrès. Ce n'est pas la même chose, mais c'est des métiers qui sont voisins. Et effectivement, ce choix est stratégique. Ça n'a pas été encore évoqué tout de suite. Ce choix est stratégique. Parce que l'étude préliminaire a été faite par GL Events, qui a l'intention de faire, pour un niveau européen, un grand palais des congrès ici, capable de jouer dans la cour des grands, dans la grande région. Voilà la réponse à votre question, monsieur Thiel. Et donc, oui, on a accepté la proposition de GL Events de faire un grand palais des congrès. Deuxièmement, quelle est la seule clause que nous ayons mise, et en particulier moi, que ce palais des congrès ne coûte rien en frais de fonctionnement? Parce que c'est ça le problème des palais des congrès dans beaucoup d'endroits. Et nous avons passé une convention avec GL Events, avec un seul objectif, nous mettons le capital. Oui, nous mettons le capital, je vais y revenir, mais il est hors de question que ça coûte en frais de fonctionnement. Or, il existe des foules de palais des congrès, comme des foires, qui coûtent tous les ans de l'argent en fonctionnement. Vous avez entendu tout à l'heure le discours sur la différence entre le fonctionnement et l'investissement. Nous faisons l'investissement. Après ça, Metz Métropole. Metz Métropole a beaucoup investi, depuis le début du mandat, dans l'intérêt de l'agglomération. Et Metz Métropole, c'est moi, c'est nous tous, Metz Métropole. Je ne distingue pas, j'ai écouté, madame, votre raisonnement, ce n'est pas Metz et Metz Métropole. Metz Métropole, c'est Metz, et Metz est dans Metz Métropole. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et compte tenu de la bonne situation financière de la ville de Metz, Nous n'aurions pas fait le Palais des Congrès si la ville de Metz ne décidait pas, parce qu'elle peut le faire, compte tenu de sa bonne gestion, elle peut le faire, de mettre le paquet dans l'investissement. Et ceci est la façon de renvoyer l'ascenseur à des maires et des responsables de Metz Métropole qui ont été parfaitement corrects et constructifs avec nos projets qui étaient les projets de la ville de Metz. Ça s'appelle faire de la politique d'agglomération. Maintenant, troisième point, le Conseil général. Jamais, depuis des lustres, le Conseil général n'a participé à gérer un équipement dans la ville de Metz. Il a apporté parfois des subventions, et c'est ce qui était prévu. 5 millions de subventions étaient prévues par le Conseil général. Et quand nous avons rencontré le président du Conseil général, nous avons senti une volonté de participer et nous avons conclu une alliance. Pourquoi ce palais des congrès va s'appeler Metz, Métropole, Moselle ? Parce que le Conseil général veut y participer en étant dans le tour de table, ce qui n'est pas la même chose que simplement de participer en mettant de l'argent. Et je trouve que c'est une grande force d'avoir le Conseil général, parce que la Moselle, c'est 1 million d'habitants, et que le Conseil général a fait ce choix stratégique. Je m'en suis félicité au Conseil général, parce que, comme vous le faites de temps en temps, monsieur Thiel, en reconnaissant que nous travaillons bien, eh bien là, j'ai reconnu que le président Weyten avait fait un choix judicieux en s'investissant en tant que président du Conseil général dans notre projet. Si bien que nous avons fait une alliance à trois, la ville de Metz facilitant les choses, mais vous avez compris qu'au bout du compte, Metz Métropole paiera aussi, parce que Metz Métropole actuellement payait 550 000 euros par an pour une association de promotion des congrès, hein, argent qui peut être capitalisé, si je puis dire, dans l'amortissement d'un emprunt correspondant au reste. Alors maintenant, sur le prix, vous avez compris aussi, on a vu large. Je suis assez d'accord pour considérer qu'on a vu très large. Et ça a été dit également au Conseil général. Et enfin, Madame Zimmermann, si les conseillers généraux de Metz, tous réunis, Madame Griesbeck, Monsieur Jacquat, Monsieur Toulouse et moi-même avons voté unanimement au Conseil général le projet de SPL avec le président du Conseil général, c'est parce qu'au Conseil général, tout le monde a compris que c'était une décision qui était une grande décision pour la Moselle. Si bien que moi, je vous le dis comme je le pense, on a bien travaillé, on ne pouvait pas aller plus vite parce qu'on n'a pas arrêté de faire des travaux. Laissez-nous un peu quand même digérer la masse de travaux qu'on a lancés et je voudrais vous remercier. Je l'appelle vraiment solennellement, je souhaiterais avoir un vote unanime sur ce point, parce qu'il en va du développement économique. C'est un enjeu très important pour la ville. Il ne s'agit pas de se comparer à Nancy, il s'agit de se positionner comme étant une grande ville européenne, mais c'est une grande ville européenne. J'ai confiance dans l'avenir en vous proposant ce vote. Je vous remercie. Alors, je vous propose quatre personnes pour siéger. Monsieur Martallier. Je vous propose Monsieur Lioger et Madame Kosik, ainsi que moi-même. Et je mets aux voix. Alors, il y a des explications de vote. Alors, première explication de vote de Monsieur Darbois. Allons-y.
Merci, Monsieur le maire. Une explication de vote un peu politique, puisqu'on était en plein dedans. Dire que je suis très à l'aise serait faux. Mais je reste à ma place. Brigitte Leblanc et moi avons un doute sur l'opportunité d'un palais des congrès à cette jauge-là. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Cela dit, nous restons loyaux là où nous sommes, comme on l'est avec nous, Europe Écologie Les Verts. C'était dans le paquet de départ en 2008, monsieur le maire. Donc, nous ne voterons pas contre. S'abstenir serait faux cul. Par loyauté, je voterai, comme la majorité, sur cette proposition-là. Et je rajoute que mon cauchemar serait d'être applaudi par l'opposition.
Merci. Explication de vote. Il n'y a pas d'autre explication de vote. Eh bien, écoutez, je mets aux voix. On va lever la main. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Tout le monde ? Allô, dans l'opposition ? Qui est contre ? Une voix, monsieur Maréchal. Je vous remercie. Alors, un vote contre. les abstentions de l'opposition, sauf une absente, c'est Mme Quillot qui n'est pas là, qui n'a pas donné le pouvoir, et puis la majorité, moins une voix pour. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce débat. Il est 8h05. Madame Bory, vous êtes pressée, Madame Bory? Vous pouvez bien manger. Madame Bory a faim aussi. On prendra Madame Bory après. Madame Bory est très courtoise parce que son voisin, Monsieur Thierry Jean, a très faim. Voilà. La séance est levée pour casser la croûte. Bien.